One, two, three, ho!
Aline, Léonard, comment je fais pour motiver ma gamine à faire du vélo à partir en vacances avec moi?
Ben, tu l'emmènes à Europa Park et tu lui dis pas combien de temps ça prend.
Ah! Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, l'émission qui donne envie de pédaler, l'émission sur le vélo utilitaire. Et aujourd'hui, on est avec Aline et Léonard. Comment ça va ?
Très bien.
Alors, vous êtes une petite famille à vélo, vous avez 3 enfants et vous êtes militant. Vous faites partie d'Extinction Rébellion, vous êtes aussi engagé en politique. Qu'est-ce que ça vous apporte le vélo dans votre vie au quotidien ?
Ça nous apporte du mouvement, parce que quand on est à vélo, on est toujours en mouvement. Ça nous apporte de l'air frais, parce que quand on est à vélo, on respire de l'air frais.
C'est notre moyen de transport, hein, ça nous permet de nous déplacer, parce que ça va faire maintenant 2 ans qu'on n'a plus de voiture. Et puis ben, avec 3 enfants, il faut quand même se déplacer. Et du coup, ben, nos vélos, ça nous permet justement d'être mobiles, d'aller faire nos courses, d'aller amener les enfants quelque part, d'aller avec les enfants quelque part. Et du coup, c'est l'élément aussi central de notre mobilité.
Est-ce que ça vous rend heureux ? C'est un mot qui est central pour moi.
Clairement.
Ouais.
Oui.
Extinction Rébellion, qu'est-ce que c'est que cette association en fait ?
C'est pas une association, c'est un mouvement. C'est un mouvement international qui est né en 2018 en Angleterre et qui a pris de l'ampleur dans le monde entier. C'est un mouvement pro-climat, donc c'est des personnes qui se réunissent ensemble et qui ont décidé d'agir, d'organiser des actions non violentes pour faire réagir les gouvernements.
Moi déjà j'adore le nom Extinction Rébellion, ça fait à moitié film de science-fiction d'action. Extinction Rébellion. Nous ne disparaîtrons pas sans nous battre.
Ça fait exactement ça.
Ouais, il y a un peu de ça. Hein.
Bah oui, c'est clair. Il y a le mot extinction et puis il y a le mot, bah non, on n'a pas envie de finir comme ça, donc on se rebelle.
En quoi le vélo nous aide ou va nous aider à ne pas disparaître, à ne pas nous éteindre ?
Pour moi, en tout cas, le vélo, c'est ne pas utiliser la voiture. Donc, et puis quand on sait que ben, la voiture émet le CO2 qui est en concentration déjà beaucoup trop élevée dans l'air, ben, on se dit ben, voilà, je ne contribue pas à ça. Et puis je me déplace à vélo sainement et sans polluer.
C'est vrai que c'est un moyen facile d'avoir un effet sur les émissions de gaz à effet de serre qui sont dans notre atmosphère. Du coup, si on est sensible à ça puis qu'on a compris que c'est un problème, il suffit de se renseigner un petit peu. Hein, tous les scientifiques nous en parlent depuis des années. Et puis on ne trouve pas d'études scientifiques qui nous disent le contraire, qui nous disent non, c'est tout bon, continuez d'utiliser votre voiture et autres éléments polluants. Il n'y a pas de souci avec le climat. Du coup, d'une fois qu'on a compris ces choses-là, on peut se rendre compte aussi que, ben, que le transport individuel, c'est-à-dire la voiture individuelle, elle est responsable de 24% des émissions de gaz à effet de serre en Suisse l'année passée, ou l'année d'avant, on va dire, puisque l'année passée, c'est encore un peu différent. Du coup, les chiffres de 2018, ils sont clairs, 24%, c'est ça. Et du coup, si on veut essayer de diminuer quelque part les émissions de CO2, de gaz à effet de serre, ben, un point facile, c'est de se dire, ben, on pourrait utiliser beaucoup moins les voitures individuelles et puis les remplacer par une alternative intéressante. Ben, clairement, le vélo électrique, c'est clairement une alternative intéressante. Ben, sinon, c'est plus compliqué de se dire, ben, qu'est-ce que je vais faire au niveau des émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture, des entreprises ou de beaucoup d'autres domaines. La voiture individuelle, c'est assez simple, on peut dire, sur en tout cas une bonne partie des trajets qu'on a à faire. Et puis, ça représente 24% des émissions en Suisse. Du coup, c'est un gros bloc auquel on peut facilement s'attaquer et changer quelque chose.
Ouais, puis, on parlait d'action. Et puis, bah, c'est une action facile de se déplacer à vélo, finalement.
Alors, vous êtes une famille qui partait aussi en vacances à vélo, je dis pas de bêtises ?
C'est juste, oui.
Exact, ouais.
Alors du coup, je vous propose d'écouter Papa Cyclette qui donne des conseils pour ceux qui auraient envie de se lancer dans la grande aventure des vacances à vélo.
Dis Papa Cyclette, tu me racontes une histoire ?
Une histoire de quoi ?
Bah, une histoire de vélo.
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir pour partir à vélo est dans la chronique de Papa Cyclette.
Le vélo, c'est bien, mais si on a mal aux fesses ?
Ah, la bonne question. C'est vrai que les problèmes de fesses sont des soucis récurrents et qui peuvent gâcher un voyage. J'en ai fait l'amère expérience. Au-delà du choix du vélo, le choix de la selle sera important pour le confort. Chaque anatomie étant différente, il est difficile de conseiller un produit. Néanmoins, certaines selles semblent plébiscitées par la communauté de voyageurs. Les selles en cuir, de type Brooks, Berthoud, sont souvent utilisées. Elles sont dures au début, elles s'assouplissent avec le temps, ce qui finit par les rendre confortables. Des selles évidées, et qui sont dites « Infinity », semblent être une bonne alternative en limitant les points de contact entre la selle et le cycliste. Je parle au conditionnel car je n'ai pas eu l'occasion de les tester. Pour ceux qui restent sensibles du postérieur, il est toujours possible de voyager en vélo couché. En effet, ces vélos sont également de bonnes mules pour pouvoir randonner à vélo. On peut les charger facilement avec des sacoches. Il s'agira de trouver l'équilibre et puis ensuite de se lancer le siège permettant de régler tous les problèmes de fesses.
On choisit quel développement pour voyager ?
Partir en voyage avec son vélo de route et son plateau de 50 dents ne sera pas forcément très utile. Choisir un développement compris entre 1,5 m et 2 m permettra de pouvoir mouliner à 4-5 km/h en montée. Parce que si jamais vous n'avez jamais roulé chargé, vous risquez de perdre votre fierté dans certaines côtes, car vous risquez de monter aussi vite que votre grand-mère qui va sortir la poubelle. En même temps, voyager à vélo, c'est aussi un moment pour contempler le paysage. À titre d'exemple, avec un braquet proche d'un 22-32-44 pour les plateaux et 11-32 dents pour les pignons, cela vous permettra d'aller un petit peu partout et de pouvoir monter des sacrées pentes, même à très faible allure.
Des petits plus ?
Un éclairage efficace est un plus. Il y a plusieurs dispositifs. Des lampes à piles pour des transports occasionnels, des lampes à batterie, mais qui nécessitent de l'électricité pour être chargées, et des lampes dynamo, qui sont plutôt conçues pour un usage un petit peu plus régulier. Cet éclairage est un plus car il concerne la sécurité. Les lampes, même allumées en plein jour, permettent une meilleure visibilité. Ça ne vous sauvera pas d'une attaque d'ours, mais ça peut sauver d'une rencontre malheureuse avec une voiture. Béquilles et rétroviseurs sont également des plus qui participent au confort lors de votre voyage à vélo.
Et s'il faut faire attention à un point particulier ?
S'il devait y avoir un point de vigilance sur un futur vélo de voyage, ça serait bien les roues selon moi. En effet, il s'agit du point de contact entre la route et le vélo, et ce sont elles qui vont subir les plus grandes contraintes, notamment celles qui sont relatives au poids. Les jantes doivent donc être solides. Les routes VTT peuvent être à privilégier. Plus il y a de rayons, mieux c'est. 36, 38 rayons, ça commence à être pas mal. Des jantes double paroi sont utiles pour le voyage à vélo. Certains rayons sont renforcés au niveau des œillets. Ça peut être un plus pour un vélo destiné à être chargé. Concernant la taille des roues, il faut savoir qu'une petite roue sera plus solide qu'une grande roue. C'est une loi physique, bien évidemment, avec des caractéristiques techniques proches. Une roue de 26 pouces sera peut-être à privilégier pour des voyages engagés sur des sentiers très cassants. Une roue de 700 peut être suffisante pour des voyages sur route si elle est solide. Beaucoup de rayons, jantes double paroi, rayons renforcés. Attention aux roues voilées. Avec le chargement, si un léger voile est présent au début du voyage, il risque de s'accentuer au fur et à mesure des kilomètres. Une visite chez le vélociste peut être intéressante pour pouvoir partir sereinement.
Alors, on sait tout ?
Oui, ça y est, tu sais tout.
Bon voyage, papa cyclette !
Et ben maintenant, vous savez tout ce qu'il faut faire pour équiper votre vélo correctement pour partir en vacances. Et du coup, Aline et Léonard, vous êtes déjà partis en vacances à vélo, et puis pas n'importe comment, parce que vous étiez trois, avec trois enfants. Donc on imagine qu'il faut un sacré équipement. Comment ça se passe ? Vous êtes équipés comment, vous ?
Alors, les premières fois où on est partis en vacances à vélo, on avait deux enfants, dont un qui portait encore des couches.
Oh yeah.
Donc on avait dans la charrette, on avait notre paquet de couches. Donc on était aux couches lavables à la maison, mais en vacances, on s'est dit que non, on avait le droit quand même d'avoir un paquet de couches. Donc voilà, on avait du matériel dans notre charrette, mais on a décidé qu'on dormait au chaud. C'est-à-dire qu'on louait une petite chambre, on a dormi sur la paille, on a dormi dans des petites auberges.
Pas de tente, voilà. Quoi. Comme ça, il n'y a pas de transport de matos.
Exactement.
Ouais, dès qu'on prend une tente, bah, ça double un peu le matériel. Quand on doit prendre une tente, du coup, on doit prendre un matelas, du coup, on doit prendre un sac couchage, du coup, on doit prendre un réchaud, du coup, on doit prendre des casseroles. Et du coup, c'est vite beaucoup de matériel. Du coup, on s'est simplifié justement la tâche les premières fois en se disant, bon, bah, on dort quelque part.
Après, on a un secret. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours voyagé avec un vélo électrique.
Ah oui, d'accord, ça aide.
Ça aide pour tirer la charrette, ça aide pour transporter le matériel. Donc on a toujours fait comme ça, j'ai toujours eu un vélo électrique. Et puis même quand on est plus tard, quand les enfants étaient un peu plus grands, puis qu'on a décidé de partir avec tout le matériel de camping, bah, les enfants portaient leurs propres vêtements, leurs propres affaires. Mais moi, j'avais encore une charrette ou des sacoches avec le matériel de camping.
Et vous partez tous les ans comme ça ?
On l'a fait pendant de nombreuses années, ouais.
Ouais.
Ouais, ouais. Pendant les étés, bah justement, on partait au début une semaine, ensuite on a fait 10 jours, ensuite 2 semaines, et on a fait même 2 fois par année. Et puis après avoir fait justement 2 fois des plus grands trajets de 2 semaines, la première fois qu'on a fait autant de temps, c'était pour aller depuis la maison jusqu'à Europa Park. Les enfants avaient, je ne veux pas dire de bêtises, mais 4, 8 et 10 ans. Oui, c'est ça. 4, 8 et 10 ans. Et du coup, ben, la petite, elle était encore dans la remorque ou sur un follow me derrière le vélo. Mais les grands ont pédalé 400 km avec nous à 8 et 10 ans pour aller jusqu'à Europa Park, depuis la maison en passant par Bâle.
Ça fait 200 km à peu près ?
400.
400.
400, ouais. Et puis ensuite, on est revenu en train. Et puis ensuite l'année suivante, puisqu'on a vu que ça fonctionnait bien de les amener jusqu'à un beau parc d'attractions, on allait jusqu'à Legoland Deutschland, et là aussi Allez. C'était à peu près 400 km aussi en 2 semaines.
Ah, puis du coup ça les motive pour pédaler.
Exactement.
Ah, oui. Ah, ouais. Ça, c'est sûr,
parce qu'eux ils savent juste qu'on va à Legoland, du coup après 2 heures quand on passe vers Vevey, ils disent c'est bientôt Europa Park.
Oui,
puis on est là, non mais écoute, on va déjà faire la première nuit quelque part, quoi.
Du coup, attends, en combien de temps tu as dit que ça prenait les 400 km
À peu près 11 jours, c'est ce qu'on a pris. Ouais. Et puis ensuite, on était 3 jours sur place, à Europa Park ou à Legoland Deutschland. Et puis ensuite, ben, 1 jour pour revenir en train avec quelques escales et toujours un peu d'adrénaline quand il faut changer de train. Avec 4 vélos, une remorque, 8 sacoches
et
3 enfants qu'il faut justement pas oublier sur le quai.
Et 5 minutes.
Ah oui, sur chaque quai, ouais. Aline, toi, tu as dit que tu avais un vélo électrique. Et toi, tu as un tandem, Léonard.
Exact. Alors après, le tandem, c'était pour le long voyage qu'on a ensuite mis en place, où on est parti pendant 5 mois. Et là, on a fait 4000 km, du coup, un peu plus que les 400 en 2 semaines.
Tous les 5 ?
Tous les 5, exact. Wow. Du coup, là, les enfants avaient 6 ans, 10 ans et 12 ans. Et puis, bah, la petite à 6 ans, elle était sur un tandem avec moi. Et du coup, là, c'était une belle solution. Aline, elle avait toujours le vélo électrique et une remorque derrière pour le matériel, parce que là, on ne peut pas partir sans tente et sans matériel de camping. Et puis... Les enfants étaient chargés aussi avec leur sacoche, leur matériel pour partir pendant 5 mois. Et du coup, on a fait une belle, belle aventure tous ensemble. Et là, bah, c'était aussi essentiel à 6 ans de pouvoir être sur un tandem avec son papa. Elle était devant moi. C'est un tandem où elle est couchée dessus. Et du coup, c'était vraiment facile pour elle et agréable pour tout le monde dans cette configuration-là. Ouais.
Alors apparemment, tu n'as pas eu trop de peine à choisir ton vélo parce que en plus d'être... dans votre vie au quotidien engagée pour le vélo, dans votre militance associative, ou même si ce n'est pas une association exactement. En plus, tu travailles dans une boutique de vélo.
Exact, ouais, ça aide bien. Et puis, bah, c'est ma passion du vélo qui m'a amené là-dedans de toute façon. Du coup, c'est vraiment quelque chose d'assez logique. Et puis ensuite, ben, ça permet aussi de montrer aux gens qui auraient des questions sur ce type d'aventure. Voilà, oui, c'est possible. Regardez, on peut équiper une famille, partir en vacances ou même partir en voyage pendant plusieurs mois à vélo.
Démonstration par l'exemple.
Exact. Et même chose avec la vie de tous les jours. Bah oui, c'est possible d'enlever une voiture sur 2 voitures ou d'enlever toutes les voitures sur les voitures qu'on a devant la maison et puis de faire beaucoup de choses ou alors quasiment tout à vélo facilement.
Et bien ça, on va en parler, mais tout d'abord, on écoute la chronique du yak.
Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler d'Eric Hatfeld et son frère Jack qui en 1932 sont partis de Johannesburg et ont traversé toute l'Afrique à vélo avant d'arriver en pleine Deuxième Guerre mondiale en Angleterre. J'ai eu la chance de rencontrer Jack de son vivant 2 ans avant sa mort, il avait à l'époque déjà 87 ans. Il m'a ouvert grand la porte de sa maison. Il m'a dédicacé plutôt son livre qui existe toujours en version anglaise. Eric se rappelle de son frère Jack. Un an auparavant, après une sortie au cinéma, nous marchions le long de la mer. Nous commençâmes à parler de voyage d'une manière très désinvolte, comme il nous arrivait souvent de le faire. Lorsque, quelques heures plus tard, nous retournâmes à notre voiture, il ne restait plus un seul coin du monde que nous n'étions pas déterminés à visiter. Les frères Jack frappent à la porte de 3 revendeurs de bicyclettes à Johannesburg, Hercule, BSA et Royal Enfield. Ce dernier fut le seul à répondre. Il était sûr que son fournisseur de Londres nous ouvrirait ses bras et nous signerait un gros chèque. Mais en attendant, il nous a vendu des cadres noirs équipés au prix courant, 3 livres sterling et 6 shillings chacun. Eric se souvient comme si c'était hier de sa Selbrooks en cuir, de son chargement à 3 vitesses Sturm & Archer, de sa chaîne Reynolds et de ses pneus John Bull. Nous prîmes possession de nos bicyclettes à 5 heures du soir et étions déjà en route à minuit, façon aussi d'échapper au recrutement de militaires. Eric était toute sa vie durant un militant anti-apartheid, lui qui était pourtant blanc, bien né, afrikaners. Il me montre la carte à l'échelle 1/2 millionième qu'ils utilisèrent pour traverser l'Afrique. Ça fait rigoler aujourd'hui que chacun possède un GPS sur son guidon. De rares lignes rouges indiquent les quelques routes existantes d'alors, seulement 400 km de voies asphaltées entre le Cap et le Caire. Atfel se montre curieux, mais pas envieux de mon VTT à 24 vitesses. Nous n'avions pas d'argent, que de simples bicyclettes et de mauvaises pistes. Mais nous nous sentions toujours en sécurité. Les gens nous invitaient partout et nous laissions sans crainte nos vélos équipés à l'extérieur durant la nuit, appuyés contre leurs cases. L'idée d'être volés nous était étrangère. Ce qui les a constamment soutenus durant leur périple fut l'unique chose qu'on ne peut pas emporter, la gentillesse des habitants. Ceux-ci savaient ce dont les deux frères avaient besoin, un repas, un lit à l'abri de la pluie et des sourires partagés. Le temps a révolutionné à la fois le cyclisme et la communication, mais Eric en est certain. Le changement majeur a eu lieu dans les comportements des gens. Eric et son frère transportent l'équipement minimum, très peu d'argent liquide, et ils quittent le Cap avec 52 rands en poche, avec cependant un seul et incroyable luxe, la guitare de Jack. Notre départ fut presque un désastre, se souvient Eric. Lorsque nous entrâmes dans le parc national des éléphants d'Ado, il était presque 5 heures et nous étions couverts de coups de soleil, les muscles raides, les fesses en flammes, affamés et plus que désillusionnés. Se mesurer à l'impossible apporte cependant une forme de liberté. Prenant soudainement conscience de sa fragilité et de la pure folie de leurs entières entreprises, Eric comprend qu'il devra tout donner pour réussir. Alors que, quittant les Schwarzkopf, nous approchions le sommet de la colline, je jetais un coup d'œil au feu de Port Elizabeth, sa ville natale, et réalisai pour la première fois que j'effectuais une coupure radicale avec ma vie d'avant, délaissant mes amis, ma famille, tout ce qui m'était familier. C'était un sentiment étrange, effrayant, mais aussi exaltant. Lorsque les frères Atfel parviennent finalement à Johannesburg, ils acquièrent des pèlerines imperméables, des sacoches, des casques coloniaux, des sacs de couchage et un nouvel appareil photo. En Rhodésie, actuellement le Zimbabwe, ils achètent une tente. Une photo prise plus tard les montre avec leur équipement. La tente fixée sur le porte-bagages arrière avec une paire de sacoches et la guitare de Jack, ficelée au cadre. Un homme commence par ses pieds, disent les aborigènes d'Australie. Ainsi, les frères Atfel partent-ils à la découverte de l'Afrique de bas en haut. Nos casques émaillés de blanc et nos bicyclettes lourdement chargées nous rendaient très visibles et nous nous sommes vite habitués aux habitants des villes, des villages, qui nous arrêtaient pour nous demander d'où nous venions et où nous allions. Au-delà des descriptions habituelles des fameuses attractions touristiques des chutes Victoria, des flamants roses, des grands parcs kényans et de la tombe de Toutankhamon, c'est avant tout le côté humain du récit qui ressort avec la plus grande intensité. Au nord, les indigènes ignorent jusqu'à l'existence même de l'Afrique du Sud. Ils étaient surpris de voir deux blancs à bicyclette, encore plus lorsque nous leur demandions un lieu pour dormir. Il leur était impossible de comprendre que nous nous rendions à Londres.
On est toujours avec Aline et Léonard, une famille de personnalités engagées pour le vélo. Alors vous faites des choses au niveau professionnel, dans vos engagements associatifs, dans votre vie et aussi en politique, parce qu'il y a différents échelons d'engagement. Le niveau tout en haut, si on veut que tout le monde s'y mette, c'est l'engagement politique. C'est bien ça ?
Exact, ouais. Et puis ben là, moi, je débute avec un engagement au niveau de la commune. Et puis on verra ce qu'on arrive à faire ces 5 prochaines années. Puis les résultats sont tombés dimanche passé et que c'était positif.
Yeah.
Et du coup, on va attaquer la suite. Mais ben, au niveau communal, en tout cas, si on est sensible au vélo, il y a tout de suite des bonnes choses à faire parce qu'on se rend compte que si on fait du vélo, que ce soit occasionnellement ou tous les jours, que ce n'est pas monstre sécurisé de faire du vélo dans notre pays. Et du coup, si sur sa propre commune, on se rend compte qu'il y a des choses à améliorer, un bon moyen en tout cas, c'est de soit s'engager dans la politique, soit de contacter les politiques qui peuvent aider à mettre en place justement soit une bande cyclable, un peu de peinture sur le bord de la route, soit une vraie piste cyclable où les cyclistes peuvent être en sécurité en dehors de la route et moins déranger aussi les autres utilisateurs de la route. Et du coup, oui, il y a des choses à mettre en place pour le développement, la sécurité du vélo. On se rend compte aussi que les enfants, ils ne font pas forcément tous du vélo. Et puis une des raisons, c'est justement parce que les parents ont peur qu'il y ait un accident sur le chemin de l'école, par exemple, à vélo. Et du coup, si toutes les communes arrivaient à se dire, voilà, maintenant, comment on fait pour sécuriser l'accès aux écoles à vélo, plus d'enfants feraient du vélo, on aurait aussi moins de soucis de santé, les enfants se bougeraient un peu plus. On sait que c'est des grandes questions actuellement. Et du coup, il y a plein de solutions qui vont se mettre ensemble. L'effet rebond un petit peu de mettre les gens sur des vélos, ça a plein de belles solutions qui vont suivre après. C'est pas juste, voilà, les cyclistes vont pouvoir aller à vélo et puis les automobilistes vont continuer d'être dans leur voiture. Non, c'est quelqu'un va se dire, je vais essayer ça parce que ça a l'air facile. Je vais emmener mes enfants là. Je vais laisser mon enfant aller à l'école. Et puis, il y a plein d'avantages au niveau santé, au niveau bruit, au niveau pollution, au niveau espace sur la route qui vont se mettre en place.
C'est vrai que quand on milite pendant quelques temps dans les associations de promotion du vélo, on s'aperçoit de deux choses. C'est que s'il n'y a pas le politique qui s'engage avec derrière, si on n'a pas des élus pro-vélo dans le conseil communal, dans le département, dans le canton, les choses ne se feront pas, quoi. Les associations de promotion du vélo, ça doit avant tout être des associations, c'est pas politiquement correct à dire, mais des associations anti-voiture, quoi. Parce que le but, c'est pas de faire que la vie soit uniquement facile pour les cyclistes, mais que les gens délaissent la voiture pour le vélo.
Ce qui me frappe surtout, c'est que beaucoup de gens disent moi je suis dans ma voiture et puis on fait de la place pour les cyclistes et puis c'est pas normal. Ouais, à mon avis, il faut pas justement se battre entre cyclistes contre automobilistes parce qu'on est tous cyclistes quelque part. Et puis la personne qui est dans sa voiture puis qui se dit ils ont de nouveau fait de l'espace pour les cyclistes, c'est pas juste. Et puis nous alors dans notre voiture, maintenant cette personne-là un jour elle va prendre son vélo. Peut-être c'est juste 20 minutes par semaine pour lui. C'est pas que tout d'un coup on change, on vend sa voiture, on prend le vélo puis on fait que du vélo. Chacun peut se rendre compte qu'on est tous cyclistes à un moment de la semaine, à un moment du mois. Et puis, si on a la possibilité de prendre un vélo, on va le faire dans des conditions qui sont sécurisées. Ou si mon enfant il va faire du vélo, ce sera dans des conditions sécurisées. Du coup, ce n'est pas vraiment de l'anti-voiture, c'est plutôt de dire aux gens, y a une alternative. Et sur beaucoup de vos trajets, puisque actuellement, 50% des trajets, c'est moins de 5 km en voiture. Du coup, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Sur ces trajets-là, on pourrait se dire, il y en a 10% qui sont faits plutôt à vélo. Et à ce moment-là, c'est n'importe quel automobiliste ou n'importe quelle personne plutôt peut se retrouver sur un vélo. Et donc, il n'y a pas des automobilistes et des cyclistes, mais il y a juste des personnes qui veulent se déplacer. Et puis, il faut leur donner le moyen d'avoir le bon moyen de transport au moment où ils doivent faire le choix, quand ils sortent de leur maison. Parce que quand tu sors de ta maison, tu es toujours à pied. Du coup, on est tous des piétons. Et après, tu t'assieds dans une voiture ou tu te mets sur un vélo, mais ce n'est pas que d'un coup, tu te transformes en cycliste. Non, on est tous des piétons qui utilisons un moyen de transport différent suivant la distance qu'on doit parcourir.
Alors, on va conclure cette émission avec la séquence émotion. Mmh. Vous me disiez que quelques jours avant d'arriver à Europa Park, en pédalant avec votre petite famille, vous étiez passé au-dessus d'un pont d'autoroute et vous avez vu tout un flot de voitures, alors que vous, ça faisait déjà plusieurs jours que vous avez quitté ce monde-là, que vous étiez en train de pédaler tranquillement sur les petites routes, et qu'à voir toutes ces voitures en dessous de vous, ça vous avait fait un petit choc.
Oui, ça nous a fait réaliser en fait que de se déplacer, ça prend du temps. Surtout quand on se déplace à vélo. Puis comme tu le disais, ça faisait déjà 6 jours qu'on pédalait. Et puis en regardant les voitures, on a dit à nos enfants, eux, s'ils vont dans la direction d'Europa Park, en une heure, ils y sont. Alors que nous, à vélo, ils nous font encore 4-5 jours pour atteindre Europa Park.
Et ça, du coup, tu te dis, tu le mérites ton Europa Park, tu en profites encore plus, non?
Oui, tout à fait. Oui, tu mérites. Et puis en même temps, tu profites de tous les jours où tu es à vélo. Et puis c'est juste génial.
J'ai l'impression que en faisant ça, tu le désires longtemps et qu'à force d'avoir du désir, tu as plus de plaisir. Non, je dis des bêtises.
Plus tu t'approches, plus tu dis « Oh purée, ça, on y est là, on va pouvoir enfin profiter d'Europa Park ». Oui, tu le mérites clairement. Quand tu arrives, t'es très content.
Et alors, comment vous étiez quand vous êtes arrivés tous les 5 avec vos vélos en face de la porte d'Europa Park?
Alors, avant d'arriver en face de la porte, en fait, on le voit de loin parce que c'est tout plat. Puis on voyait les pointes des plus grosses attractions. Et là, je pense qu'on a accéléré un petit peu pour arriver plus vite.
Pas qu'un peu, ouais.
Pas qu'un peu, et surtout
coup,
les enfants.
Bien pédaler, les
il
enfants.
Fallait courir derrière. Et on avait clairement tous les larmes aux yeux en voyant qu'on avait réussi. On avait réussi notre exploit de pédaler à 400 kilomètres. Ouais.
Eh ben merci de nous avoir fait partager ça. Eh ben voilà, l'émission se termine. N'oubliez pas de nous liker, de nous partager, de commenter. On a besoin de vous pour faire vivre cette émission, pour la faire connaître.
La musique, c'est Raven. Le titre, c'est Ulven O'Krigeren. C'est du norvégien, ça veut dire le loup et le guerrier.
Et n'oubliez pas, les copains, pour sauver l'humanité,
faites du vélo !